Bienvenue au pays des mythes et des légendes.
Le feuilleton d'Ulysse, résumé des épisodes de la semaine précédente. Où Mariaca est venue suggérer à Télémaque de partir à la recherche de son père. Le jeune homme décide de le faire pour savoir de quelle manière Ulysse est mort. Il prend donc la mer, accompagné par Athéna, qui a pris l'apparence de Mentor. Les voici arrivés à Sparte. Télémaque est accueilli par Ménélas et par Hélène. Il entend raconter les exploits de son père à Troie, et il découvre que celui-ci est toujours en vie, retenu prisonnier par Calypso sur son île. Sur une île, quelque part en Méditerranée, une jeune fille dort paisiblement. Elle s'appelle Nausicaa. Elle est la fille du roi et de la reine des Phéaciens. Le jardin qui entoure son palais est rempli d'arbres aux branches chargées de fruits magnifiques. Sur l'une d'elles, cette nuit-là, une chouette s'est perchée. L'oiseau se penche vers la fenêtre de la chambre de Nausicaa et lui envoie un rêve. Dans son sommeil, Nausicaa s'agite. On lui reproche sa négligence. « Tu n'es pas assez ta mère, » lui dit l'une de ses meilleures amies. « Tu pourrais participer davantage aux travaux de la maison. » La jeune fille pousse un soupir. Dans ce rêve, elle essaie de se défendre, de se justifier, mais aucun son ne sort de sa bouche. Son amie continue sévèrement. « N'as-tu pas vu tout le linge sale qui reste à nettoyer ? N'as-tu aucun cœur pour ne penser qu'à jouer, à t'amuser, au lieu de soulager ta mère ?» Le visage de son amie se transforme en une tête monstrueuse au fur et à mesure que sa colère grandit. Ses yeux crachent des flammes, sa bouche des serpents. Nausicaa pousse un cri et se réveille. La lune éclaire sa chambre. La jeune fille, le cœur battant, se promet de s'occuper de la maison dès l'aube. Elle ne voit pas la chouette s'envoler sans bruit dans la nuit. Athéna a rempli sa mission. Lorsque Aurore au doigt de rose se lève, Nausicaa n'a pas oublié les bonnes résolutions que le rêve lui a inspirées. Elle court voir ses parents. Elle les supplie. « Oh, donnez-moi l'autorisation de partir à la rivière avec les servantes du palais. Nous irons laver le linge ensemble. » Le roi et la reine acceptent, ravis de cette initiative soudaine. Et c'est en chantant que la troupe de jeunes filles se dirige vers la rivière. Toute la journée, elles trempent le linge dans l'eau. Elles le frottent, elles le tordent, en s'éclaboussant joyeusement. Puis, elles l'étendent sur de grandes cordes qu'elles ont emportées. Et elles se mettent à jouer à la balle. C'est un spectacle ravissant que seuls les oiseaux de mer et les papillons peuvent admirer. Car cet endroit de l'île, à deux pas du rivage, est complètement désert. C'est alors que la balle roule dans la mer toute proche. « Attention, les vagues vont l'emporter !» crie une servante. « Dépêchez-vous de la rattraper !» Les cris réveillent un homme étendu sur le sable. Un homme nu. Un naufragé que la mer vient de rejeter sur la plage. Cet homme, bien sûr, c'est Ulysse. Les voix lui font ouvrir les yeux et il découvre qu'il est vivant. Sa première pensée est pour Athéna, sa déesse protectrice. Il la remercie de l'avoir sauvée. Puis, il se lève et sort du buisson où il a échoué. Il ne prend pas garde à son aspect misérable. Il se dirige vers les jeunes filles titubant de fatigue. Lorsqu'elle voit surgir devant elle cet homme nu, sale et hagard, elle s'enfuit tout en hurlant. Toutes, sauf une. Seule Nausicaa reste face à lui. D'une main, Ulysse casse une branche d'olivier et la prend pour cacher sa nudité. Puis il s'approche de la jeune princesse. « Oh, belle jeune fille, tu dois être une nymphe ou une déesse. Tout est lumière en toi. Je me place sous ta protection. Je viens de si loin. J'ai traversé tant et tant d'épreuves. Oh, je t'en prie, aide-moi. » Il parle avec difficulté. Mais il semble sincère et Nausicaa n'a pas peur. Et lorsqu'il lui demande « Aide-moi », elle entend « Aime-moi ». Et déjà son cœur est prêt. En souriant, elle lui tend la main. Ulysse tombe à genoux et y dépose un baiser. « Attends-moi, je reviens tout de suite !» lui dit-elle. Sans perdre un instant, Nausicaa court vers les mules qui les ont conduites jusqu'ici. Elle sort des paniers du pain, du fromage, des olives, elle attrape une gourde pleine de lait de brebis. Puis elle se dirige vers les cordes où le linge claque au vent. Elle décroche des habits d'homme. Ses compagnes sont restées prudemment à l'écart. Elle la regarde faire sans bouger. Nausicaa les houspille. « Au lieu de vous tenir ainsi comme des petites dindes, vous feriez mieux de m'aider. Vous devriez avoir honte d'un tel manque d'hospitalité. Cet homme surgi de la mer nous est sûrement envoyé par les dieux. » Et c'est les bras chargés qu'elle retourne auprès d'Ulysse. Elle l'habille, elle le nourrit, elle lui donne à boire. Ulysse se laisse faire, heureux de cette chance inespérée. Peu à peu, les servantes se sont enhardies. Maintenant, elles entourent le naufragé d'attention. Nausicaa le couvre du regard. L'après-midi se termine. Le soleil se couche à l'horizon. Il empourpre chaque vague, chaque grain de sable de sa fièvre rouge. La jeune princesse se demande comment vont réagir ses parents si elle rentre au palais accompagnée de ce naufragé. Le pas des mules résonne encore dans l'air du soir lorsque Ulysse se met en marche vers le palais. Nausicaa lui a indiqué la route tout en lui conseillant d'attendre qu'elle soit rentrée chez elle. Mieux vaut qu'ils ne cheminent pas ensemble et qu'elle prépare ses parents à son arrivée. L'odeur des genêts en fleurs se mêle à celle plus puissante de la mer. Ulysse emplit ses poumons à chaque pas. Bientôt, les imposantes murailles de la cité s'offrent à son regard. Quand il arrive en vue du palais, il a la surprise d'apercevoir le roi et la reine en personne sortis sur les marches pour l'accueillir. Ils viennent à sa rencontre et le saluent avec tous les égards dus à un hôte de marque. Ulysse est étonné. Qu'est-ce que Nausicaa leur a raconté? Je ne leur ai dit ni mon nom, ni mon rang, ni mon histoire. Mais il se laisse conduire dans une chambre préparée pour lui sans s'inquiéter et il s'endort d'un sommeil profond, sans rêve. Le lendemain, Nausicaa réapparaît. Elle se tient derrière son père dans une attitude beaucoup plus réservée que la veille. Mais elle lance des regards de connivence à Ulysse, qui s'amuse intérieurement de l'audace de cette princesse. La jeune fille est très belle. Elle a soigné sa coiffure et sa tenue. Le roi fait visiter le palais et la ville à son hôte sans lui poser la moindre question. Au fil de la journée, Nausicaa s'enhardit. Elle cherche tous les prétextes pour s'approcher d'Ulysse, lui frôler le bras ou la main, comme par négligence. Manifestement, la jeune fille est éprise de l'homme surgi de la mer. Le soir venu, un grand banquet est donné en l'honneur d'Ulysse. La princesse amoureuse est placée à sa gauche. Elle rayonne de joie et de beauté. À l'autre bout de la table, un groupe de jeunes princes de l'île qu'elle a refusé d'épouser discute à voix basse. « Pourquoi tant de prévenance pour cet étranger ?» murmure l'un. « Elle ne nous adresse jamais un regard, et lui, elle ne le quitte pas des yeux !» grogne un autre. « On dit que notre roi pense qu'il s'agit d'un dieu, ou au moins d'un envoyé des dieux !» dit un troisième. Il paraît même qu'il va profiter de ce festin pour lui offrir la main de Nausicaa, alors qu'on ignore tout de lui, s'indigne un quatrième. À cet instant, le roi réclame le silence. « Noble étranger, nous t'accueillons avec joie parmi nous. « Sans doute, les dieux t'ont-ils envoyé ici. Nous les saluons à travers toi. » La reine ajoute. « Peux-tu nous en dire un peu plus sur toi, cher ami ?» Un silence suit ces paroles. Ulysse se lève et répond. « Cher roi, chère reine, je vous suis infiniment reconnaissant de votre accueil, mais vous faites erreur. Je ne suis pas un dieu, ni même un envoyé des dieux. « Je suis juste un homme, brisé par le malheur, et cela me paraît impossible de vous le raconter. » Sa voix se met à trembler, les mots se coincent dans sa gorge, tous les visages sont tendus vers lui. Les images de ses compagnons morts, les flots de sang de la guerre, la fureur de l'océan contre lui, le manque de sa terre, de sa femme, de son fils, non, non, impossible. Quel mot trouver pour dire la douleur de cet exil ? Nausicaa adresse un regard furieux à ses parents. Mais pourquoi le questionner ainsi? En revenant de la rivière la veille, Elle s'était présentée à eux rouge d'excitation. « Un étranger vient d'arriver sur notre île. Il est aussi beau qu'un dieu. Celui-là, je le veux bien pour mari. » Cette phrase avait suffi pour qu'Ulysse soit accueilli de façon triomphale. Depuis le temps que Nausicaa éconduisait tous les prétendants qui réclamaient sa main. Devant l'émotion d'Ulysse, le roi, gêné et craignant d'avoir été indiscret, frappe dans ses mains. Aussitôt, un aède s'approche. Il se met à chanter. Et chacun détourne son attention d'Ulysse pour écouter le récit que fait l'aède. Ulysse, soulagé, reprend peu à peu ses esprits. Car l'aède s'est mis à chanter la guerre de Troie. Et dans sa bouche, le poème n'oublie personne. Achille, Agamemnon, Ménélas, Palamède et bien sûr lui, Ulysse. Tous, par la magie du verbe, reprennent vie. Ulysse retient son souffle. C'est la première fois qu'il entend le récit de leurs 10 années de guerre. Ainsi, on raconte leur combat ? Ainsi, cette guerre n'est pas oubliée de tous ? Le récit dure depuis longtemps. Ulysse a baissé la tête pour mieux écouter. À chaque mot, des images surgissent devant ses yeux. C'est alors que l'aède se met à parler du cheval en bois. Il désigne Ulysse comme son inventeur. Il sait comment l'animal au ventre chargé de mort est entré dans Troie. Il décrit, il glorifie le roi d'Ithaque. Sans Ulysse, aux 1000 ruses, les Grecs n'auraient jamais triomphé. C'est lui qui nous a apporté la victoire. Mais Ulysse, lui, revoit la majestueuse ville en flammes, les corps jetés par-dessus les murailles, les rivières de sang, le massacre des Troyens, la mort des siens aussi. Et des larmes jaillissent de ses yeux, des larmes qu'il ne peut retenir plus longtemps. Comment ses hôtes vont-ils réagir? Les larmes de l'étranger coulent sur ses joues. Nausicaa est la première à le remarquer, et son cœur se serre. Pour qui et sur quoi pleure-t-il? Mais l'aède a fini de chanter la gloire des héros de Troie. Le roi et la reine, qui viennent de s'apercevoir de l'émotion de leur hôte, échangent un coup d'œil embarrassé. Puis la reine finit par demander d'une voix douce « Mais qui es-tu donc, mon ami? Parle en confiance. » Et le roi ajoute « J'avais prévu de t'offrir ma fille en mariage à la fin de ce repas. Tu m'honorerais en acceptant. Mais avant, dis-nous qui tu es et pourquoi ce récit te fait autant d'effet. » Ulysse s'est pris la tête dans les mains. En entendant ces paroles bienveillantes, il se redresse. Non, il ne peut plus cacher son identité. Alors il s'adresse d'abord à Nausicaa. « Tu es aussi agréable que jolie, douce Nausicaa, et je ne te remercierai jamais assez de m'avoir si bien accueillie. Mais je ne peux pas t'épouser, car une femme, j'en ai déjà une. Elle est la plus aimante des épouses, et elle m'attend depuis 20 ans. » Puis il se tourne vers l'assemblée, il poursuit. « Je dois vous dire la vérité. Je suis Ulysse. C'est moi qui ai inventé cette ruse et ce cheval en bois, oui. » Un murmure de surprise parcourt les invités. Les lèvres de Nausicaa tremblent, mais la princesse garde courageusement un pauvre sourire sur le visage. La voix sourde d'Ulysse reprend, comme s'il se parlait à lui-même. « Je ne suis pas sûr d'avoir eu raison. Ce cheval a causé un terrible massacre, et peut-être que si je suis en train d'errer sur les océans, si j'ai perdu petit à petit tous mes compagnons, si je ne suis toujours pas parvenu à rentrer chez moi, peut-être est-ce parce que je suis puni d'avoir inventé cet engin de mort. » Ulysse se formule cette pensée pour la première fois, et son visage exprime une douleur profonde. Il pose les yeux sur ceux qui l'écoutent, et il lit de la compassion. Alors lentement, mot à mot, il se met à raconter. Et les paroles coulent, de plus en plus vite, de plus en plus fort, des paroles pour confier ses tourments, mais aussi pour redonner vie à chacun. Elpénor et ses compagnons d'infortune deviennent ainsi vivants, à jamais. Ulysse parle, longtemps, longtemps. les Cicones, Polyphème, Circé, les sirènes, les bœufs du soleil, Calypso. Une nuit entière, il fait le récit de son odyssée depuis la fin de la guerre de Troie. Personne ne songe à aller se coucher. Personne ne s'est endormi non plus. Les serviteurs vont et viennent discrètement. Ils entretiennent les flambeaux qui éclairent la pièce. Tous veulent entendre la terrible et la fabuleuse histoire d'Ulysse. On le trouve courageux. On le regarde comme un aventurier. Lui, perdu dans son récit, ne voit se dessiner que l'immensité de son exil. Ses rêves ne sont pas peuplés de péripéties héroïques. Il ne vit que pour embrasser un jour à nouveau le sol de sa patrie. Il a été obligé de partir et il ne désire que revenir. À l'aube, enfin, il arrive au moment où la douce Nausicaa l'a découvert nu sur le sable. Il porte une dernière fois sa coupe de vin à ses lèvres, puis il se tait. Sous le charme, chacun médite. Après un long moment de silence, le roi reprend parole. Merci. Merci de nous avoir fait partager ces terribles aventures. Nous saurons les transmettre et les raconter à nos enfants. Et nos enfants les transmettront à leurs enfants, et ainsi jusqu'à la fin des temps. Nous qui sommes un peuple de marins, nous mesurons combien fut douloureux ton combat contre les éléments. Et nous savons le prix de la découverte de terres inconnues. Ton île n'est pas très loin de la nôtre. Nous te ramènerons chez toi, Ulysse. N'aie crainte. Ulysse est aussi bouleversé qu'épuisé. Il a sauvé la mémoire des siens, et peut-être que ce récit vient enfin de lui ouvrir les portes du retour. Quelques heures plus tard, Ulysse fait ses adieux à Nausicaa sur le port. La princesse a un geste impulsif de petite fille. Elle se blottit brusquement dans ses bras, comme pour chercher à son tour protection et secours. Ulysse lui caresse doucement les cheveux, très ému par la spontanéité de la jeune fille, et encore plus par la manière immédiate avec laquelle elle lui a accordé sa confiance puis son amour. « Tu mérites mieux qu'un vieux bonhomme comme moi, usé par les épreuves de la vie, » lui murmure-t-il. « Tu mérites le meilleur. » Nausicaa fait semblant de ne pas avoir entendu. Elle lui répond « Prends soin de toi maintenant et pense parfois à moi. » Puis les yeux embués, elle ne peut s'empêcher d'ajouter dans un sanglot. « Elle en a de la chance, ta Pénélope !» Et elle s'arrache des bras d'Ulysse, part en courant sur le chemin. Ulysse la regarde s'éloigner en soupirant. Non, il ne l'oubliera pas. Mais arrivera-t-il seulement à reprendre sa place à Ithaque après tout ce temps passé ?